RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
18h04, salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Tour sur RMC jusqu'à 21h évidemment. On est ensemble pour revenir sur cette 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon. La deuxième victoire d'étape pour Julien Alaphilippe, maillot à pois sur ce Tour de France. On en parle dans un instant, on écoutera toutes les réactions évidemment, à commencer par celle du vainqueur, Cyril Guimard, le druide de la Dream Team est là. Salut Cyril.
Oui, bonjour, enfin ou plus exactement, bonsoir. Donc on attendait une deuxième victoire, et bien elle est arrivée.
Ah ben voilà, c'est toujours le même, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir pour le cyclisme français qui se porte pas si mal que ça. Donc on va parler de la victoire de Julien Alaphilippe, on reviendra finalement sur le statu quo au classement général, sur l'étape de demain, 65 km façon cyclocross entre Bagnères-de-Luchon et le col de Portet au-dessus de Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées. Et puis dans l'heure qui vient, on aura également du football au programme, le Paris Saint-Germain à partir de 18h30, on reviendra sur cette tournée du côté de Singapour en Asie à quelques jours du Trophée des Champions qui lui se déroulera face à Monaco à Shenzhen en Chine. Et puis toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec la présentation des recrues et quelques enseignements aujourd'hui d'une conférence de presse donnée par le président de l'OL justement, Jean-Michel Aulas, qui en a dit plus sur l'avenir notamment de Nabil Fekir. Tout ça, c'est tout de suite dans l'Intégral Tour sur RMC. Et on commence donc avec cette victoire de Julien Alaphilippe. Cyril, il s'offre
oui,
en doublé.
Je suis là.
Il s'offre en doublé. J'ai cru que je t'entendais tousser. Non, ça va.
Tu n'as pas encore perdu ta voix. Parce qu'on s'est un petit peu excité là sur le final avec entre les chutes, la descente de d'Alaphilippe. Oui, non, il y avait de la tension dans ce final. Vous savez, les descentes de col, c'est ouais. Toujours très tendu et
on l'a vu.
Et on a toujours peur de voir un coureur partir. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec Philippe Gilbert, mais également avec Adam Yates. Des grandes étapes comme on les aime, avec tout ce qu'il faut d'émotion, de déception et puis de joie.
Alors on va rappeler qu'au niveau du classement général, rien ne bouge. C'est toujours Geraint Thomas devant Christopher Froome, Tom Dumoulin, Primoz Roglic et Romain Bardet, le premier français leader d'AG2R la mondiale. Tu fais référence à la chute de Philippe Gilbert. C'est terrible en plus. Elle intervient dans la descente du col de Portet d'Aspet, là où s'était tué en 1995 Fabio Casartelli, qui reste à ce jour d'ailleurs le dernier coureur à s'être tué sur la route du Tour. Alors c'est une chute, on a eu très peur,
c'est aussi bien, on va pas se plaindre.
Ah non, mais on a eu très très peur parce que ça arrive à ce moment-là et parce qu'on voit Philippe Gilbert surtout disparaître derrière un mur, derrière un parapet. On se demande ce qu'il y a derrière. Alors même s'il arrive pas très vite à ce moment-là, effectivement, on peut craindre qu'il chute dans un ravin. Finalement, la chute, franchement, c'est plus de peur que de mal, on va dire. Pour Philippe Gilbert qui véritablement semblait être quand même assez choqué, on va dire psychologiquement, mais effectivement on va pas s'en plaindre. Après, alors il y a une chute, j'ai envie de dire côté français non plus on va pas s'en plaindre sans faire de mauvais esprit du tout, mais c'est Julien Alaphilippe finalement qui a mis la pression à Adam Yates dans la descente du col de Bagnères-de-Luchon. Est-ce que sans la chute de Adam Yates, Julien Alaphilippe serait quand même revenu et aurait quand même gagné cette étape?
Alors gagner, on n'est jamais sûr de gagner. L'hypothèse de revenir sur Adam Yates, oui, sans contexte, il reprenait d'ailleurs régulièrement 3-4 secondes au kilomètre. Donc à partir de ce moment-là, on savait qu'il allait rentrer. En plus, le final était moins pentuse, moins technique. Et là, lorsque vous arrivez dans le bas de la descente, et on avait vu d'ailleurs que Alaphilippe dans les relances était beaucoup plus juteux. Donc à partir du moment où il sortait de la partie technique, avec 80 mètres, il allait le chercher sur une impulsion. Et après au sprint, je pense qu'au sprint, psychologiquement, il aurait eu l'ascendant. Oui. Dans la mesure où quand vous êtes devant et que vous vous faites rejoindre, vous avez plus une chute d'adrénaline qu'un pic d'adrénaline. Et le pic d'adrénaline aujourd'hui, il était avec Julien.
Ah, Julien Alaphilippe qui s'impose devant l'Espagnol Gorka Izagirre et devant donc le Britannique Adam Yates. Quand je disais sans faire de mauvais état d'esprit, il faut dire que la chute d'Adam Yates, pour le coup, c'était dans un virage, c'était à très faible vitesse, il s'est relevé tout de suite. Julien Alaphilippe qui s'impose donc aujourd'hui à Bagnères-de-Luchon. On l'écoute, le coureur français de la Quick-Step Florence.
C'est sûr que la première, je vais jamais oublier non plus aujourd'hui, mais je reviens pas. Je me suis arraché la tronche toute la journée encore. Ça a été une sacrée journée. Et je suis trop content de concrétiser tout ça par une nouvelle belle victoire, quoi. Ouais, je me suis encore battu pour le garder un peu plus. Je sais que ça va être difficile dans les prochains jours, mais je profite jour après jour. Honnêtement, c'est que du bonus là. C'est énorme.
Alors quand Julien Alaphilippe dit je profite pour j'espère que je vais le garder encore quelques jours, il parle bien évidemment de son maillot à pois. Et oui, parce que c'est ça aussi l'autre grand enseignement de cette journée, c'est qu'en plus d'avoir imité Thomas Vaucler qui s'était imposé en 2010 du côté de Bagnères-de-Luchon en solitaire comme lui, eh bien Julien Alaphilippe, il consolide son maillot à pois. Et ça c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'a priori bah ça lui tend les bras, Cyril.
Oui, il va être très difficile à battre parce que demain, Barguil ne pourra pas lui reprendre 2 points. Il va y avoir une bagarre dès le départ puisque, vous savez, il y a un nouveau système de grille de départ un petit peu à l'image, à l'image des Grands Prix F1. On pourrait presque s'imaginer il y a une cinquantaine d'années le départ des 24 heures du Mans en épi, oui. Mais en fait c'est un peu l'idée, donc ça sera difficile lorsqu'on va partir en 7 ou 8e ligne d'aller chercher les points sur la première montée. Puis je pense aussi, attendez, c'est un peu légitime, je pense aussi que Barguil aujourd'hui il a pris un uppercut, quoi. Mm-hmm. Il pensait faire la différence, il s'est battu pour être dans l'échappée, et puis il avait Julien qui le marquait à la culotte, oui. Donc ils se sont retrouvés tous les deux devant, puis là il est passé à l'offensive dans les ascensions, Julien est allé le chercher et à chaque fois il a dit bah écoute non, le costaud c'est moi, et puis dans le col de Mante, Barguil a rendu les armes, Alaphilippe est passé en tête, et puis à l'arrivée, le dernier col, il passe en deuxième position derrière Yates, donc les points, en fait il a fait presque le grand chelem aujourd'hui, donc le classement de la montagne
ne devrait pas lui échapper.
Sauf accident, ne peut plus lui échapper.
Juste, on va y jeter un œil sur ce classement du Grand Prix de la Montagne. 122 points pour Julien Alaphilippe, Warren Barguil deuxième est à 73 points, donc il a 49 points de retard, et Guérin Thomas, donc qui est maillot jaune, est également troisième de ce classement de la montagne, il a 30 points, donc 92 points de retard, ça veut dire que même si Julien Alaphilippe ne prenait pas de points demain, il pourrait aller potentiellement en chercher dans la dernière étape de montagne, et notamment dans la montée du Tourmalet. Bon, a priori, ça va le faire pour Julien Alaphilippe. J'avais une question à te poser, Cyril. Est-ce que c'est plus dur de gagner la première ou la deuxième pour Julien Alaphilippe, qui était encore inconnu du grand public, même s'il a déjà réalisé des performances absolument extraordinaires, notamment en s'imposant cette année sur la classique belge de la Flèche Wallonne. C'est plus dur d'aller chercher cette deuxième étape ou c'était plus dur la première, justement, de briser la glace, on va dire?
Répondre par une boutade, pour pouvoir remporter la deuxième, il faut avoir remporté la première.
C'est sûr, c'est sûr.
Donc gagnons la première, puis après on verra s'il y en a une deuxième qui tombe dans l'escarcelle. Mais souvent la deuxième est plus facile à aller chercher, car vous n'avez pas la pression de perdre. Enfin, vous n'avez pas peur de perdre puisque vous avez déjà gagné. Donc on reste beaucoup plus calme. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour la dans le final, Julien est resté très calme. Il aurait pu bouger beaucoup plus tôt sur Yates, oui. Mais il a attendu, sachant que dans le dernier kilomètre, il était à plus de 32 secondes lorsqu'il commence à produire son effort. Au sommet, il avait déjà repris une douzaine de secondes, 8 à 18. Et après, il savait que dans la descente, il avait quand même, c'était pour lui un atout majeur qu'il a utilisé avec aussi un peu de réussite, puisque la non-réussite, elle était chez Adam Yates. Oui. Mais je pense que le fait d'avoir gagné une première étape lui a permis de ne pas faire éventuellement des efforts qui auraient pu l'amener à perdre.
Alors Julien Alaphilippe, parlons-en plus en détail encore, parce que il revient aujourd'hui sur Adam Yates à la cuisse. Il distance des coureurs de la trempe quand même, de Bauke Mollema et surtout de Pozzo Vivo, qui sont quand même des purs grimpeurs. Il peut rivaliser avec les tout meilleurs grimpeurs justement sur une journée comme ça. Ma question, elle est pas innocente, parce que j'ai en tête
les
championnats du monde à Innsbruck à la fin du mois de septembre.
Oui, mais il a toujours été grimpeur, Julien Alaphilippe. Rappelez-vous, il y a 2 ans dans le Tour de France, il était devant dans les étapes de montagne. Donc, faut pas dire qu'il grimpe pas. En plus, il a un rapport poids-puissance qui est celui d'un grimpeur. Donc, en aucun cas, on ne peut pas dire que il n'est pas grimpeur. Il est en train de s'affirmer. N'oubliez pas qu'il n'a que 26 ans.
Ben oui.
Qu'il a surtout eu une carrière jusqu'à maintenant, avec des objectifs sur les courses d'un jour et pas d'objectifs par rapport au tour, sinon d'essayer de gagner des étapes, c'est-à-dire dans la culture même de l'équipe Quick-Step. Bon, mais quand vous allez, quand vous êtes sur le podium de Liège-Bastogne-Liège, quand vous gagnez la Flèche Wallonne, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas un grimpeur. En plus, quand vous gagnez des contre-la-montre avec des arrivées où les quatre derniers kilomètres, c'est un col, ça veut bien dire que vous avez des qualités de grimpeur, mais même de rouleur, même si c'est pas, Tony Martin. Mmh, mmh. Mais il a tout pour être. Pour pouvoir être un acteur du Tour de France au niveau du classement général, n'en déplaise à Maître Lefebvre.
N'en déplaise à Maître Lefebvre, qui est donc le manager
que
général.
Que je respecte, hein,
oui, bien sûr. Manager emblématique de cette équipe, Quick Step Florence.
Parce qu'il a, ça fait quand même des années qu'il est manager, oui. Et puis il démontre qu'il est un grand manager.
Il en a gagné de très très belles, effectivement.
Mais pas les grands tours.
C'est peut-être pour l'instant la seule chose, effectivement. Enfin, c'est pas peut-être, c'est certainement la seule chose pour l'instant qui ne puisse manquer au palmarès de son équipe Quick-Step Florence. Juste encore pour terminer sur Julien Alaphilippe, parce que franchement il le mérite, Cyril. Je suis désolé, il mérite qu'on parle aujourd'hui de lui, qu'on lui rende un véritable hommage. Il a été félicité par Pierre Latour. C'est dire quand même à quel point il fait l'unanimité aussi dans le peloton. C'est-à-dire que Pierre Latour, qui est quand même d'une équipe concurrente, qui lui est dans une équipe française, qui est le meilleur jeune de ce Tour de France, il est allé voir Julien Alaphilippe sur la ligne pour lui dire bah, bravo mon gars. C'est quand même exceptionnel. Il faut bien rappeler que Julien Alaphilippe est un coureur absolument apprécié de toutes et de tous.
Oui, non, c'est d'abord. Bah, regardez-le dans sa vie de coureur cycliste, et pour imaginer ce qu'est sa vie sur le plan civil. C'est quelqu'un avec lequel vous ne pouvez pas avoir de conflit. C'est quelqu'un avec lequel vous partez au bout du monde. Et vous êtes sûr que vous n'allez pas vous ennuyer et que vous allez avoir un super copain avec vous. Il aime la vie et il le fait partager, et les autres sentent ce bonheur de vivre. Et par voie de conséquence, ben on a envie d'être son ami. Et puis bon, Pierre Latour, il est un peu aussi sur le même registre, donc ça va très bien.
Effectivement. On va se projeter, si tu le veux bien, Cyril, rapidement sur l'étape de demain, 65 km entre Bagnères-de-Luchon et le col de Portet, au-dessus de Saint-Lary, dans les Hautes-Pyrénées. Étape donc au format inédit. Tu rappelles l'espèce de départ en forme de cyclocross, c'est-à-dire que les 10 premiers s'élanceront sur une ligne. Quelques minutes après, il y aura les 10 suivants du classement général. Évidemment, ça sera déterminé en fonction de l'ordre du classement général. Ça risque de bouger énormément demain, sachant que ça n'a pas bougé aujourd'hui. Du côté des
leaders. Ça n'a pas bougé au niveau du classement général, mais
regardez,
si vous prenez l'étape d'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec
40,
presque la moitié du peloton échappé. Mais derrière, après, bon, il y a eu statu quo, il n'y a pas eu d'offensive, personne n'a essayé de jouer. Je pense que tout le monde était un petit peu tendu par l'étape de demain, parce que si jamais au départ vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas la possibilité de vous refaire sur une étape comme aujourd'hui. Allez, on n'est pas bien au départ, au bout d'une heure, ça va aller un peu mieux, après la sudation, quelques petits efforts et vous pouvez vous refaire. Là, si vous êtes plante à gaz au départ, là vous perdez tout ce que vous voulez, hein. Et je le dis avec des mots corrects. non, c'est une étape.
Je connaissais pas ça.
C'est une étape très très dangereuse. Alors maintenant, parce qu'en première ligne vous aurez déjà les 10 premiers.
Oui.
Qui parmi les 10 premiers va pouvoir attaquer? Les équipiers seront beaucoup plus loin.
Oui.
Donc il leur faudra du temps pour revenir. Mais ce qui est vrai pour les Sky, va être vrai pour Bardet, va être vrai pour les 10 premiers du classement général.
Il
faut que je fasse rentrer mes équipiers, c'est-à-dire que
il y a deux Movistar, il y a deux Lotto Jumbo, il y a deux Sky, un Sunweb, un AG2R et un Astana.
Oui, donc tout le monde a intérêt à faire revenir ses équipiers, donc ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Les seuls qui pourraient véritablement le jouer, sont les Espagnols, ouais. C'est la Movistar, dans la mesure où ils ont trois coureurs qui sont loin en général. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils en ont un qui est huitième, l'autre qui est onzième, et puis l'autre qui est sixième.
Est-ce qu'on peut pas imaginer, je sais pas moi, Romain Bardet s'allier avec Dan Martin, par exemple?
Oui, mais
au
bon,
départ,
faut que ça sorte,
parce que Bardet,
que ça sorte.
Bon, il va pas en attendre 50,
non,
hein,
non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Non, ce qui peut se passer, c'est que, imaginons que Valverde attaque au départ avec dans sa roue Landa et continue. Là, les équipiers auront du mal à revenir. Mm. Effectivement, si Landa sort avec Romain, bon là, effectivement, ils peuvent se mettre à la planche tous les deux et essayer de tout faire sauter. Mais ça peut se produire que dans le cours, mais ce sont pas des alliés. alliance. C'est deux coureurs qui s'échappent ensemble, et s'ils s'échappent ensemble, eh ben ils se relaient ensemble. On appelle ça des alliances, mais non, c'est des choses normales. Quand vous avez trois équipes qui roulent derrière une échappée, est-ce que c'est une alliance ou les trois équipes? Oui, c'est une alliance parce qu'elles ont intérêt à aller chercher l'échappée. Bon. C'est le système. Le cyclisme ne se fait que par équipe. C'est-à-dire que si vous êtes deux, c'est une équipe de deux dans l'échappée. Si vous êtes huit, c'est une équipe de huit. Parce qu'il faut qu'il y ait une collaboration entre les équipes. Donc on devient une équipe. C'est-à-dire que les équipes se font et se défont au fil des kilomètres.
Merci Cyril. Je te laisse aller continuer à travailler. On te retrouve tout à l'heure.
Mais non, je ne travaille pas. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est par passion. Je n'ai jamais travaillé.
Bah, tu sais, moi, c'est pareil. Hein. Dès que je parle vélo avec toi, c'est un véritable bonheur. À tout à l'heure, 19h avec toute la bande sur RMC dans l'intégrale Tour. Frédéric nous attend au 32-16. Salut Frédéric.
Salut.
Et bienvenue à toi sur RMC à 18h19. Dans l'intégral tour, tu voulais peut-être revenir sur bon, il y a pas eu de lutte pour le classement général hein. Je rappelle juste Geraint Thomas à 1 minute 39 d'avance sur Christopher Froome et 1 minute 50 sur Tom Dumoulin. Romain Bardet, premier français, t'as plus de 3 minutes, il est 5e. Qu'est-ce que tu voulais nous dire?
Ben, je trouve qu'on parle pas assez de Tom Dumoulin.
Ah ben justement, Tom Dumoulin, le néerlandais, donc 3e du classement général.
Bah oui, parce qu'il reste plus beaucoup d'étapes de montagne, il reste le contre-la-montre. Et mine de rien, bah 11 secondes sur le contre-la-montre par rapport à Froome. Si Geraint Thomas, Froome attaque et qu'il emmène Dumoulin et qu'il met Geraint Thomas en difficulté, 11 secondes sur le contre-la-montre, Dumoulin est dans un fauteuil pour gagner le tour.
D'autant qu'il a déjà montré qu'il était capable, hein, Tom Dumoulin, de gagner.
Ah, il a gagné le Tour d'Italie. Sur le Tour d'Italie, il me semble que dans les chronos, il a battu Froome. J'ai vu le Tour d'Italie là, cette année, j'ai vu le Giro de cette année, je trouve qu'il est moins en danger en montagne, qu'il est plus à l'aise en montagne sur ce tour qu'il a été dans le Giro, notamment au début. Bon, l'étape de demain, je sais pas avec son gabarit ce que ça peut donner si ça part dès le départ.
Oui. C'est une véritable énigme hein, demain, ce qui peut se passer effectivement.
Ouais, parce que voilà, je pense que ça va être plus, enfin, c'est plus taillé pour des punchers genre Romain Bardet. Mais par contre, ben si les Sky emmènent Dumoulin sur comme ça, sur un dernier contre la montre avec le maillot jaune, si Geraint Thomas a une 50 encore, ça va aller. Après, si Geraint Thomas craque, Froome mon second sur Dumoulin, je pense pas dans les contre-la-montre, dans le contre-la-montre, ils le tiennent.
Effectivement, on verra ça.
Je pense qu'on parle pas assez de cette raison. Et du coup, c'est la chute de Nibali.
Oui.
Peut-être un trublion là-dedans. Pour agiter la course, mais bon. Merci. Je pense que les Sky n'ont pas encore gagné le Tour de France.
Eh ben, c'est noté. Merci Frédéric, en tout cas, d'avoir été avec nous dans l'intégral Tour. Belle soirée à toi. Tiens, réaction après la deuxième victoire de Julien Alaphilippe, qui s'est donc imposé au Grand Bornon lors de la première étape alpestre et qui s'impose à Bagnères-de-Luchon lors de la première étape pyrénéenne. Réaction, s'il vous plaît, de monsieur le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.
Il a fait une descente extrêmement rapide. Adam Yates, qui était devant lui, a chuté. Il a gagné. On savait que c'était un formidable puncher. On savait aussi que c'était un remarquable descendeur. Il a le maillot à poids bien accroché sur les épaules, même s'il reste encore deux grosses étapes de montagne. Mais on le voit grandir très vite sur ce Tour de France. On le voit grandir très très vite et ça fait pas de mal.
Ça fait pas de mal effectivement au cyclisme français qui, c'est vrai, hein, fait chou blanc hein, sur ce Tour de France. Vous êtes nombreux à nous le faire remarquer. Fait chou blanc parce que les équipes françaises ne gagnent pas. Parce qu'à part Julien Alaphilippe justement, il n'y a pas de victoire française. Mais heureusement, il est là, le maillot à poids. Et d'ailleurs, Rémi a tenu à lui rendre hommage. Salut Rémi.
Oui, bonsoir Arnaud, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va bien. Ben, déjà, avant de parler à Philippe, déjà rendant un hommage à Gilbert, parce que plus combatif, c'est sûr. Voilà, en plus, on se souvient du col de Portée d'Aspet pour des régions tragiques et non pour le côté sportif. Donc en plus, voilà, ouais, valeur, ouais, combatif de l'étape, c'est justifié.
Ouais,
donc
Philippe Gilbert, qui on le rappelle, hein, c'est a chuté dans la descente du col de Portée d'Aspet, là où s'était tué Fabio Casartelli en 1995. C'est vrai qu'on a eu très peur. Finalement, beaucoup plus de peur que de mal pour Philippe Gilbert, qui a pu renfourcher son vélo et rallier l'arrivée sans encombre. Vas-y Rémi, je t'en prie.
Ouais. Et donc après, on a vu Alaphilippe faire un gros numéro, suivre les meilleurs grimpeurs, et comme l'a dit Cyril Guimard juste avant, moi je pense que pour les mondiaux, s'il a des bonnes jambes, il peut suivre les meilleurs en montagne, il peut même suivre un Froome, il peut même suivre un Nibali. Sur un grand tour aujourd'hui, je sais pas, Mais aujourd'hui, sur sur un jour, il peut suivre.
Effectivement, sur un jour, il peut suivre. C'est ce que c'est ce que je demandais à tout à l'heure à Cyril Guimard, hein, le druide de la Dream Team, qui m'a confirmé effectivement, oui, que Julian Alaphilippe était aussi de la trempe des meilleurs grimpeurs, hein, tout simplement. Ouais. Hein. Il t'a mis les frissons là, franchement, aujourd'hui, ce qu'il a fait, Julian Alaphilippe.
Ah bah aujourd'hui, bah déjà, je le voyais pas aussi bon grimpeur que ça. Je le voyais très bon peinture, parce que Flèche Wallonne, Liège Bastogne, Liège, bon, vous en avez parlé, je vais pas énumérer encore son palmarès, parce qu'on y passerait la nuit. Mais
voilà. Et il n'a que 26 ans.
Mais d'un autre côté, tant mieux pour cyclisme français, va pas se plaindre. Il y a 10 ans, se plaignait parce qu'on gagnait rien. Et puis là, on va commencer à se plaindre parce qu'il y a les Français qui commencent à gagner. Ce serait quand même assez un petit peu désastreux de dire ça par rapport à d'autres nations. Et ouais, après, il fait un gros numéro en descente. Alors, c'est vrai qu'on peut être triste aussi pour Yates, parce que voilà, le pauvre... Mais je pense que même si Alaphilippe le dépassait pas dans la descente, Alaphilippe le rejoignait dans la... Enfin, le rejoignait sur le petit bout de ligne droite, et Alaphilippe au sprint face à Yates...
Ouais, ça faisait pas quoi, effectivement.
Il y avait pas photo. Je pense que, voilà, même dans la chute de Yates, il y avait... Il y avait la victoire française. Et je voulais dire aussi un autre truc.
Vas-y, je t'en prie.
C'était pour AG2R. Oui. C'est Franck et Latour, je les ai vus devant. Alors au début, je me suis dit, mais pourquoi Franck et Latour sont devant? C'est des seuls grimpeurs à côté de Bardet. Et je me suis dit, pourquoi ils ne les mettent pas à côté de Bardet? Et finalement, après, je me suis rappelé d'étape de demain, où ça partait sur le grille de Formule 1. Je me suis dit, peut-être que Franck qui fait le forcing pour Latour, et qu'en fait, Bardet, il se sent pas de faire le podium.
Oui.
Et, ou du moins, il se sentait pas capable aujourd'hui de faire une différence. Et du coup, comme ça, la tour se rapprochait au général.
Effectivement.
Et donc, du coup, il partait plus près de Bardet demain.
Et oui.
Et comme ça, demain, bah, la tour, Bardet, pouvait s'allier avec, comme vous le disiez, Martine, Quintana. Et moi, je dis, tous les autres là, les Zakarin, les Fugotang, quand les aime ou plus les aime pas, parce que Zakarin et Valverde, je les porte pas dans mon cœur. Mais allez, on les met tous là, Zakarin, Valverde, Quintana, Kreuzweig, Roglic, Dumoulin. On fait une alliance contre les Sky. Et puis là, on va voir leur vrai niveau, parce que ouais, c'est bien quoi d'imprimer leur tempo, mais bon.
On verra ça demain. Merci Rémi, en tout cas, d'avoir été été avec nous. Et ça me permet de rappeler effectivement que Pierre Latour, le meilleur jeune de ce Tour de France, a fait un gros rapproché au classement général aujourd'hui, le coéquipier de Romain Bardet, puisqu'il est désormais 13e à 9 minutes 54 de Geraint Thomas. La suite dans un instant de l'intégral Tour sur RMC. Le vélo reviendra à 19h, évidemment, 32-16 direct studio et hashtag RMC live. Nous, on va parler de foot. On va parler du Paris Saint-Germain qui est à Singapour, qui est en quelque part là en ce moment dans un avion justement entre Paris et Singapour. Et puis on parlera du recrutement du côté de l'Olympique Lyonnais, également à un petit peu plus de 15 jours de la reprise du championnat de France de Ligue 1. Et puis toutes les infos mercato à partir de 18h45. À tout de suite, 18h27.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Jusqu'à 21h, l'Intégral Tour sur RMC. Je vous rappelle la victoire de Julian Alaphilippe aujourd'hui lors de la 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères de Luchon. Deuxième victoire d'étape pour le jeune Français qui consolide un petit peu plus son leadership au classement par points, au classement du meilleur grimpeur, c'est-à-dire celui qui est représenté par le maillot à poids. À 18h31, on va parler un petit peu de football. Et oui, parce que vous le savez, le Paris Saint-Germain est en train de préparer sa saison. Il y aura notamment le 4 août le trophée des champions à Shenzhen en Chine face à l'AS Monaco, en gros les deux meilleures équipes de la saison précédente. Juste avant ça, déjà des matchs amicaux à jouer en Asie, notamment du côté de Singapour. Ce sera samedi le premier face à Arsenal. Et on est en ligne justement avec Saber Defarge, qui est notre envoyé spécial du côté de Singapour. Salut Saber.
Salut Arnaud, salut tout le monde.
On a le groupe, ça y est, officiel justement du PSG qui affrontera Arsenal donc et qui se déplace en Asie pour cette tournée.
Ça y est, un groupe de 24 joueurs effectivement qui s'est envolé à 16h direction Singapour. On les attend ici en Asie aux alentours de 11h heure locale, 5h heure française, puisqu'il y a quand même 6h de décalage horaire entre Paris et Singapour. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui voient d'ailleurs un joueur qui n'est pas dans l'avion actuellement. C'est Angel Di Maria qui a obtenu un petit rap de vacances. Il sera de retour avec le reste du groupe directement à Singapour cette semaine. Pour le reste, c'est c'est un groupe auquel on pouvait s'attendre puisque Kylian Mbappé par exemple ou encore Neymar sont encore en vacances. En revanche, deux noms sont absents, c'est Jesse Rodriguez et Gonçalo Guedes. Ces deux joueurs-là sont en instance de départ, ils resteront à Paris pendant la tournée.
Pas d'inquiétude autour de l'absence d'Angel Di Maria, hein. Tu nous le précises bien Saber.
Non, pas d'inquiétude, il a juste obtenu un petit rap de vacances, lui qui a disputé un huitième de finale avec l'Argentine éliminée évidemment face à l'équipe de France. Il a disputé trois des quatre rencontres de l'Argentine durant cette Coupe du Monde, contrairement à Giovanni Lo Celso qui lui effectivement a fait son retour, mais lui n'a effectué aucune minute, il n'a participé à aucune minute de jeu durant la compétition. Résultat, il est bien là, il a repris l'entraînement hier, Giovanni Lo Celso, contrairement à Angel Di Maria que l'on attend du côté de Singapour dans les prochaines.
Bon, ça va, au-delà du programme sportif dont on va parler dans quelques petites secondes, d'abord, il y a une volonté encore et toujours pour le Paris Saint-Germain, on le voit au fil des années, c'est peut-être encore plus important justement cet été, il faut absolument conquérir ce marché asiatique, d'où ce déplacement à Singapour.
Exactement, d'ailleurs le Paris Saint-Germain a ouvert un bureau à Singapour lors du mois d'avril dernier, il y a à peine 3 mois et demi, les Parisiens qui ont décidé évidemment d'ouvrir ce bureau-là, ne serait-ce que déjà rattraper ces féroces concurrents que sont par exemple Manchester City, Arsenal ou encore Manchester United qui ont déjà des bureaux en Asie et qui se sont attaqués à ce marché asiatique, mais aussi forcément du côté du Paris Saint-Germain, il y a une volonté de ramener de potentiels sponsors locaux et de toucher le plus de supporters possible. On allait rencontrer justement Sébastien Vazel qui est le nouveau directeur de ce bureau du Paris Saint-Germain du côté de Singapour. Il a évoqué évidemment cette volonté du Paris Saint-Germain de conquérir le marché asiatique, mais surtout la manière dont il faut s'y prendre, notamment grâce à l'emblème du Paris Saint-Germain, le blason évidemment avec cette tour Eiffel qui s'affiche sur le blason du Paris Saint-Germain. L'un des plus gros, des meilleurs, des plus beaux arguments du PSG, c'est évidemment sa ville Paris. Écoutez Sébastien Vazel.
Ce qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est le club de Paris. Vous parliez de séduction, le fait d'être le club de Paris, d'avoir la tour Eiffel dans notre logo, d'avoir le nom Paris, apporte une touche de glamour non négligeable au club, nous permet de nous singulariser et nous permet de toucher un autre public. Notre présence conjuguée à la victoire des Bleus, à la Coupe du Monde et prestations assez époustouflantes de ce jeune garçon devrait beaucoup nous aider à développer la marque ici en Asie-Pacifique.
Allez Saber, un petit mot pour terminer du programme sportif donc pour le Paris Saint-Germain. On le dit, on le répète, premier match face à Arsenal, ce sera samedi.
Exactement, samedi à 13h35 précisément au stade national de Singapour, les joueurs du Paris Saint-Germain qui arriveront donc demain à l'aube en heure française aux alentours de 5h. Le premier entraînement, il sera quasiment dans la foulée, ce sera à 18h heure de Singapour, donc du coup à midi heure française, les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont avoir l'occasion de faire un petit décrassage et de se mettre le plus rapidement en jambes avant cette première rencontre. Différents événements aussi seront organisés un petit peu partout dans Singapour pour à l'occasion de cette semaine et cette tournée en Asie avec des joueurs comme Gianluigi Buffon qui sont attendus pour différents événements évidemment avec des sponsors du Paris Saint-Germain, histoire aussi de ravir les supporters mais aussi les partenaires asiatiques.
Merci Saber Desfarges à Singapour, donc envoyé spécial de RMC Sport. Bonne soirée.
Ciao tout le monde.
Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site rmcsport.fr. On a pris des nouvelles du PSG, on vous donnera régulièrement des nouvelles de tous les clubs de Ligue 1. Tiens, c'est important, à 15 jours de la reprise de la saison du championnat de France, un autre club qui prépare sa saison et plutôt idéalement victoire 4-0. C'était il y a deux jours pour Lyon face aux Anglais de Fulham. L'OL qui présentait également aujourd'hui ses deux nouvelles recrues, ou deux de ses nouvelles recrues, Léo Dubois et Martin Terrier. C'était sous les yeux de Martin Bourdin, envoyé spécial de RMC Sport à Lyon. Salut Martin.
Salut Arnaud, salut à tous.
Et donc présentation de plusieurs recrues dont Martin Terrier. C'est qui? C'est l'ancien Strasbourgeois qui a été recruté cet hiver et qui sort de quelques mois galère. Hein.
Exactement, Martin Terrier, ancien Strasbourgeois qui appartenait à Lille. C'est au LOSC que l'OL a acheté Martin Terrier. Pour ça, ils ont déboursé la modique somme de 11 millions d'euros, les Lyonnais, pour faire signer Martin Terrier jusqu'en 2022. Martin Terrier, il a 21 ans. Il s'est été révélé à la face du grand public en septembre dernier. Il avait marqué un triplé en 30 minutes avec l'équipe de France Espoir. Il avait ensuite enchaîné avec 3 buts marqués lors de la première partie de saison en décembre. Et puis Lisez Arnaud, après la deuxième partie de saison, a été très compliqué pour le jeune attaquant français, jeune attaquant polyvalent, beaucoup de blessures et en tout cas plus aucun but dans les 6 derniers mois de la saison. Il est arrivé à Lyon, ça a l'air d'aller un peu mieux puisque dans cette préparation, il a déjà marqué 3 buts en 2 matchs, dont un doublé dans cette victoire dont tu parlais Arnaud. Face à Fulham, cette arrivée du côté de Lyon semble être une libération pour lui. En tout cas, Martin Terrier, il nous l'a dit pendant sa préparation, il est très fier d'avoir rejoint un club réputé pour la qualité de ses buteurs.
C'est un club qui forme de très grands attaquants, qui marque énormément de buts. Donc rien que pour ça, ça donne envie. Et ensuite, par rapport à la concurrence, c'est vrai que la concurrence va être rude cette année. Mais pour un jeune joueur comme moi, j'ai tout à prouver. Et c'est pour ça que je vais redoubler d'efforts pour avoir le maximum.
C'est Arnaud.
Alors, autre présentation aujourd'hui, celle de Léo Dubois, l'ancien Nantais.
Exactement, alors lui aussi, hein, c'est un jeune, hein, Léo Dubois, il a seulement 23 ans, ça répond à une vraie stratégie du club lyonnais, hein, d'avoir les meilleurs jeunes français. Léo Dubois, c'est le capitaine de Nantes la saison dernière, lui aussi a signé en cours de saison du côté de Lyon, il n'a pas hésité une seule seconde, Léo Dubois, parce qu'il voulait avoir la tête libérée pour aborder la fin de saison avec son club formateur Nantes. Alors on a vu qu'il était jeune, mais il était quand même un peu mieux rodé dans sa communication, il a 2 ans de plus que Martin Terrier, il avait un grand sourire au moment de porter son maillot floqué du numéro 2020, puisqu'il est jusqu'en 2020 sous contrat avec Lyon, lui aussi donc très fier d'arriver à Lyon. Pour lui, ce transfert, c'est le symbole d'une progression logique. Écoute, il a dit en conférence de presse tout à l'heure.
L'important pour moi, c'est de pouvoir franchir des paliers, tant humainement que sportivement. Cette phase de ma vie, entre guillemets, ces 6 derniers mois m'ont permis justement de pouvoir en franchir. Maintenant, voilà, c'est une page qui se tourne. Je suis arrivé dans un très bon club. J'en suis fier. Et puis, en voyant la qualité des hommes et aussi la qualité qu'il y a autour de nous, je pense, à l'entraînement, voilà, on se rend compte que sportivement aussi, on va passer des paliers. Donc c'est bien. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir évolué ces 10 dernières années au FC Nantes, mais aussi, je suis aussi très content d'ouvrir une nouvelle page à l'OL.
Alors, présentation de recrues, donc aujourd'hui, on l'a compris, Martin Terrier et Léo Dubois. Point mercato plus général aussi, on va dire, proposé par tout le staff de l'Olympique Lyonnais et notamment par le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a rassuré, on va dire, sur l'avenir de Fekir et de Marcelo, Martin.
Exactement, ce sont deux joueurs qui sont ciblés par plusieurs clubs, deux joueurs qui potentiellement peuvent quitter cette équipe de Lyon. On sait que Nabil Fekir avait un bon de sortie, lui qui souhaitait rejoindre Liverpool. Ça avait failli se faire avant la Coupe du Monde. Finalement, le transfert avait avorté. D'après ce que nous a dit Jean-Michel Aulas aujourd'hui, il a pris une bonne demi-heure pour faire un point complet avec la trentaine de journalistes présents lors de ce point presse, pour faire le point complet sur le mercato. Et d'après Jean-Michel Aulas, donc Fekir et Marcelo vont rester à Lyon. En tout cas, Jean-Michel Aulas compte sur eux pour la saison. La porte n'est pas complètement fermée, mais Jean-Michel Aulas estime qu'ils vont rester. Écoutez le président de l'Olympique Lyonnais.
J'ai vu qu'il était en contact avec beaucoup de clubs anglais. Et je peux vous dire que son président ne veut pas le laisser partir. Moi, je crains rien du tout. S'ils partent, c'est qu'on y aura trouvé notre compte. Et on va tout faire pour qu'ils partent pas. De toute façon, quand un joueur veut absolument partir, il s'y prend très tôt et différemment. Voilà, on aura sûrement encore à la fin, bon, je crois que le marché anglais ferme le 9. Donc la semaine avant le 9, il y aura sûrement un peu de tempête.
Voilà, on attend quelques assauts venus du côté de l'Angleterre, du côté de Lyon. En tout cas, d'autres joueurs devraient quitter le club, puisqu'on lui a posé la question à Jean-Michel Aulas de quid des joueurs qui étaient un peu en mal de temps de jeu la saison dernière, notamment Jordan Ferry, Maxwell Cornet et Mapu Yangambiwa. Alors Jean-Michel Aulas nous a répondu, sur les 3, il y en aura au moins 2. Il nous a pas dit les noms, mais il y en aura au moins 2 qui auront des bons sorties cette saison du côté de l'OL.
Alors concernant les arrivées, Martin, l'Olympique Lyonnais espère justement au moins recruter un défenseur central.
Exactement. C'est la priorité cet été pour le club lyonnais. On a appris cette information à RMC Sport aujourd'hui, hein. L'Olympique lyonnais qui a fait une offre de 30 millions d'euros pour Yerry Mina, le défenseur colombien qu'on a beaucoup vu lors du mondial, lui qui a marqué un ou deux buts lors de cette Coupe du Monde, le défenseur colombien. Donc Yerry Mina qui pourrait rejoindre le rang lyonnais, mais les Lyons doivent affronter la concurrence de clubs anglais, hein, sur ce dossier, notamment Everton. C'est compliqué pour Lyon de recruter. Ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, c'est effectivement, on veut un défenseur central, mais on ne veut pas acheter pour acheter. Il y aura certainement un joueur qui va arriver, nous a dit le président lyonnais. Peut-être deux, peut-être pas du tout. Le deuxième joueur, s'il y en a un deuxième qui arrive du côté de Lyon, ce sera certainement un milieu de terrain, puisque c'est l'autre profil ciblé par Jean-Michel Aulas. C'est la cellule de recrutement menée par Florian Maurice. Avoir un milieu de terrain capable d'épauler Lucas Touzard dans cette position de sentinelle devant la défense.
Eh bien, merci beaucoup Martin Bourdin, envoyé spécial de RMC Sport du côté de Lyon, pour toutes ces informations très complètes. Romain est avec nous au 32-16, justement, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut Romain.
Bonsoir.
Et bienvenue sur RMC. 30 millions d'euros, t'as entendu l'offre pour s'adjuger les services de Yerry Mina, le Colombien pour l'instant qui évolue au FC Barcelone. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Bah, il a fait une bonne Coupe du Monde. C'est un défenseur assez assez grand, assez solide. Je pense qu'avec Marcheo, ça ferait une belle paire. Il nous faut de toute façon un défenseur central. Il faut également, et on en a parlé, un milieu de terrain. Il parle de Hernandez, de Herrera, pardon, du FC Porto, international mexicain. Donc voilà. Après, on s'est pas renforcé pour la Ligue des Champions. On s'est renforcé, à mon sens, pour le championnat. Avec Terrier qui est peut-être un futur prometteur avec Dubois, mais si on veut espérer se qualifier et passer les phases de poule en Ligue des Champions, il va falloir passer un petit cap au-dessus quand même.
Bah ça dépend si tu réussis à faire rester Nabil Fekir par exemple.
Bah Nabil Fekir, ce serait très bien. Déjà s'il reste, ça serait effectivement une belle recrue, parce que de toute façon on pensait qu'il allait partir. Donc on remercie tous très fort, je pense, Liverpool qui a voulu négocier à la baisse son tarif en donnant une excuse de visite médicale. Donc merci à eux. Mais oui, effectivement, c'est sur la partie offensive, on n'a pas trop de problèmes. Par contre, il faut trouver effectivement un défenseur pour suppléer à Morel qui arrive à un certain âge et un milieu de terrain pour remplacer un peu Touzard qui l'année dernière a fait tous les matchs, a fini sur les retours. Ouais.
T'es confiant de manière plus générale pour cette saison?
Bah, pour l'instant sur la partie championnat, oui, puisque on a gardé le même groupe. Sur la partie Ligue des Champions, ça manque un petit peu de qualité, je pense. C'est un peu trop frais, un peu trop jeune. Il faudrait effectivement quelqu'un qui ait de l'expérience pour moi en Ligue des Champions. Alors on parle du
mais le groupe a grandi là. Le groupe a grandi quand même du côté de l'Olympique Lyonnais, Romain.
Par rapport à quoi?
Bah par rapport à l'expérience justement d'une saison où t'auras vécu quelques belles joutes quand même européennes, même si c'était pas de la Ligue des Champions effectivement.
Oui, mais on sait tous que entre la Ligue Europa et la Ligue des Champions, il y a quand même une différence de niveau.
Faut voir le parcours que tu fais quand même en Ligue Europa. Voilà. C'est pas intéressant non plus. Bah,
cette année, on se fait sortir par le CSKA Moscou et Salement en plus. Voilà, c'est bien pour l'expérience, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Donc après, tout dépend dans quel chapeau on va tomber. Je sais pas si on tombe dans le chapeau 2 ou 3, mais on va prendre de toute façon des grosses équipes. Donc il va falloir être solide et il va falloir effectivement trouver un joueur qui a de l'expérience en Ligue des Champions pour apaiser le groupe un peu aussi.
Merci Romain d'avoir été avec nous. Et belle saison à toi du côté donc de l'Olympique Lyonnais qui reprendra comme tout le reste de la Ligue 1 évidemment. Ça sera le week-end du 10 août. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est un Marseille-Toulouse qui inaugurera cette nouvelle saison de Ligue 1. 18h45, l'intégral tour revient dans un instant. Dans un quart d'heure, le vélo fait son retour. On a parlé du mercato de l'Olympique Lyonnais. On va parler du mercato de manière encore plus générale. Il y a plein d'infos que vous pouvez aller retrouver sur notre site rmcsport.fr. Où vous entendrez notamment Clément Grenier, nouveau milieu de terrain offensif du Stade Rennais, qui s'est exprimé au micro de RMC Sport. On vous donnera des infos également autour de Malcolm. C'est un sacré feuilleton pour l'attaquant bordelais. On en parle dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Jusqu'à 21h, l'Intégral Tour vous accompagne sur RMC. Je vous rappelle le résultat de la 16e étape aujourd'hui du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon. Victoire du Français Julien Alaphilippe qui fait coup double après s'être imposé. C'était lors de la 10e étape du côté du Grand Bornand dans les Alpes. Le vélo revient dans une dizaine de minutes. D'ici là, on continue à parler de football.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Toutes les infos Mercato, c'est avec Jordan Olivier ce soir. Salut Jordan.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
Et avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Retournement de situation dans le dossier Malcolm. Le Brésilien qui devait s'engager hier avec l'AS Rome va finalement être transféré au FC Barcelone.
Ultime coup de théâtre effectivement dans ce feuilleton. Le joueur des Girondins s'apprêtait hier soir à prendre un avion direction Rome. Le Brésilien n'a finalement jamais embarqué dans l'appareil. La raison, une surenchère de dernière minute du FC Barcelone qui a proposé 41 millions d'euros à Bordeaux pour s'attacher les services de l'attaquant brésilien et ça vient de tomber à l'instant. Les Girondins de Bordeaux viennent d'officialiser le départ de Malcolm donc pour le FC Barcelone. 41 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus. Le Brésilien vient donc tout juste de signer un contrat de 5 ans avec le champion d'Espagne, donc contrat qui courra jusqu'à l'exercice 2022-2023.
Johan est avec nous au 32-16, supporter du Barça. Salut Johan.
Salut à tous.
Qu'est-ce que tu penses de ce transfert Malcolm au Barça, c'était pas franchement le...
Disons qu'aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, l'équipe du Barça, l'équipe titulaire du Barça, c'est ce qui se fait pour certains postes de mieux dans le monde, pour d'autres parmi ce qui se fait de mieux. Donc le Barça aujourd'hui elle a besoin de d'étoffer son banc, et je pense que au vu des prix qui sont appliqués aujourd'hui, je pense que pour un joueur de ce âge-là, avec ce qu'il a montré dans un club très 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 moyen, je pense que c'est une bonne affaire. Moi.
C'est une bonne affaire. Bon, donc du coup ça te satisfait. Tu as vu que l'Olympique Lyonnais était également sur Yerry Mina, puisqu'on parle du Barça. Ça serait une mauvaise affaire ça pour le coup de le perdre. 30 millions, c'est l'offre de l'OL.
Je pense que ouais, vu ce qu'il a montré aussi, pareil au Mondial, et vu encore une fois le banc du Barça qui n'est pas ces dernières années, c'est pas top. Donc je pense que faudrait le garder, surtout qu'il est jeune et que il peut aller qu'en s'améliorant, quoi.
Effectivement, l'international colombien de 23 ans. Merci Johan d'avoir été avec nous. 32-16, belle soirée à toi. Évidemment, à l'écoute d'RMC. Krikoviak, pour continuer cette actu mercato, va de nouveau être prêté. Le milieu de terrain du PSG va cette fois-ci prendre la direction de la Russie, Jordan.
Et oui, décevant depuis son arrivée dans la capitale en 2016, le Polonais file au Lokomotiv Moscou. Il est prêté par le Paris Saint-Germain avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. Pour rappel, le joueur avait été acheté 27,5 millions d'euros au FC Séville. On peut dire que c'est un flop sur le plan économique, également un flop sur le plan sportif, puisque le joueur n'a disputé que 11 petits matchs de championnat sous les couleurs du Paris Saint-Germain.
Clément Grenier quitte Guingamp, le milieu de terrain de 27 ans, s'est engagé aujourd'hui avec le Stade Rennais.
L'international français a signé un contrat de 3 ans avec le rival breton, après une demi-saison plutôt réussie sous les couleurs guingampaises. 5 buts et 4 passes décisives en 16 matchs. Grenier s'est laissé séduire par le discours des dirigeants rennais.
Oui, le projet présenté m'a plu. Je connais mes qualités et je sais que tout seul, je suis rien. Donc, c'est un projet global avec des jeunes joueurs, avec peut-être un petit peu moins d'expérience que j'ai la chance de connaître la Coupe d'Europe. Donc, tout ça m'a beaucoup plu et voilà, j'ai envie de commencer le championnat et en allant petit à petit. On sait que de toute façon, la Coupe d'Europe, c'est une compétition très compliquée et c'est pour ça que le championnat et les coupes permettent aussi de se valoriser avec les meilleures équipes du championnat. Donc c'est la globalité du projet qui m'a permis et qui m'a plu pour rejoindre le club.
Voilà, donc pour Clément Grenier, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Du côté de Montpellier, bien c'est Andy Delors qui rejoint l'Hérault. L'attaquant auteur de 5 buts en Ligue 1 la saison dernière, Jordan, a été présenté aujourd'hui par le club Héraultais.
Effectivement, il avait rejoint Toulouse en janvier 2017 pour 6 millions d'euros. Delors quitte finalement la Haute-Garonne pour rejoindre Montpellier sous forme de prêt avec option d'achat. Originaire de la région, l'attaquant s'est dit ravi de rejoindre Montpellier où il portera le numéro 11.
Et puis João Moutinho, pressenti en Angleterre, le monégasque pourrait rejoindre très prochainement Wolverhampton.
Les arrivées probables de Daoulou et de Golovin pourraient entraîner le départ du portugais vers la première ligue. Wolverhampton a d'ores et déjà montré son intérêt concernant le milieu de terrain portugais, intérêt confirmé par l'AS Monaco. Moutinho avait été acheté 25 millions d'euros au FC Porto en 2013. Il pourrait quitter la principauté pour un montant avoisinant les 6 millions.
Merci beaucoup Jordan Olivier, on te retrouve tout au long de la soirée, notamment à 20h45 pour encore plus d'infos mercato. Et puis dans l'after à 22h45, vous retrouvez toutes ces infos mercato sur notre site rmcsport.fr. L'intégral tour, il va être l'heure de passer la main à Christophe Cessieux. Je vous rappelle les résultats du jour sur la 16e étape du Tour de France entre Carcassonne et Bagnères de Luchon en Haute-Garonne. Les Pyrénées qui se profilent désormais pour le peloton. Victoire de Julien Alaphilippe, maillot à pois du Tour de France, et donc deuxième victoire d'étape pour lui après celle acquise l'autre jour au Grand Bornand. Au niveau du classement général, cela ne bouge pas. Geraint Thomas est toujours devant Christopher Froome, le néerlandais Tom Dumoulin, Primoz Roglic le slovène et Romain Bardet, cinquième et premier français de ce classement général. Le leader est grimpeur d'AG2R, la mondiale, tout ça on en reparle tout de suite avec Christophe Cessieux qui va me prendre le relais tout simplement.
Et oui, jusqu'à 20h effectivement.
Tu prends des relais, je peux pas te suivre quand tu prends des relais.
Ah, t'as vu, je tire des boudrons incroyables, surtout en montée. On va donc revenir effectivement sur cette magnifique victoire de Julien Alaphilippe, deuxième succès sur les routes de ce Tour 2018. Il a tout pour plaire, ce garçon, la classe, le panache, le sourire. C'est un bon client, en plus il nous régale sur les routes de ce Tour et il sauve en plus le bilan français. On reviendra également sur malheureusement les difficultés de Warren Barguil qui n'y arrive pas. L'année dernière, il était dans la peau de Barguil, de Alaphilippe. Cette année, c'est plus compliqué. On reviendra aussi sur les chutes aujourd'hui et sur la manifestation qui a fait mettre pied à terre au Tour de France. Et puis on s'intéressera à l'étape de demain, la grande bagarre pour le classement général dans une étape très excitante. 65 km seulement, ça va sprinter du début à la fin. Ce sera juste après les infos de 19h avec toute l'équipe pour débriefer cette étape du Tour de France.
RMC Intégral Tour.